J'adore apprendre avec Radio Okapi.
Oui, les enfants, bienvenue dans votre émission Bana Okapi Éducation.
Très heureux de vous savoir nombreux à suivre Bana Éducation, votre magazine consacré à l'enseignement à distance par la radio. C'est un programme dédié à tous les élèves de la République démocratique du Congo, particulièrement à tous les apprenants des rattrapages scolaires qui se trouvent dans les régions affectées par les conflits. Ce programme vous est proposé du lundi au vendredi entre 16h et 17h heure de Kinshasa, samedi de 9h à 11h et dimanche de 10h à 12h. Grâce Mvozolo, c'est moi à la présentation de ces magazines. Debs Vita assure la partie technique. Sarah Soumbela est à la réalisation. La coordination est assurée par Christian Mapendano sous la supervision de Jean-Marc Matwaki Mofelele Dijano. Chers apprenants, je vous dis bonjour.
Bonjour, messieurs l'enseignant.
Bien, aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de l'agriculture et de l'élevage en histoire. Commençons par l'agriculture. L'agriculture est l'une des activités les plus anciennes pratiquées par l'homme. Elle consiste à cultiver la terre et à élever des animaux pour se nourrir et vivre. Sans l'agriculture, les hommes ne pouvaient pas rester longtemps au même endroit, car ils devaient toujours chercher des fruits, des racines ou chasser des animaux. Grâce à l'agriculture, les hommes ont pu se sédentariser, fonder des villages et développer des civilisations. Chers élèves, retenez qu'un sédentaire est celui qui a une habitation fixe. Dans cette leçon, nous allons apprendre les origines de l'agriculture, l'évolution de l'agriculture à l'histoire, l'agriculture dans l'Antiquité, l'agriculture au Moyen-Âge, l'agriculture à l'époque moderne et contemporaine, mais aussi l'importance de l'agriculture dans la vie de l'homme. Parlons maintenant des origines de l'agriculture, chers apprenants. 1. Avant l'agriculture, les premiers hommes vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils étaient nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient continuellement pour trouver de la nourriture. Ils utilisaient des outils simples comme les pierres taillées, les bâtons et les os. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, certains groupes des humains ont découvert qu'ils pouvaient semer des graines et les récolter. Ils ont aussi appris à domestiquer des animaux comme les chèvres, les moutons, les bœufs, les chiens et autres. Cette découverte a changé la vie de l'humanité. Les premières plantes cultivées sont les blés, l'orge au Moyen-Âge, les riz en Asie, les maïs en Amérique, les mils et les sorgots en Afrique. Parlons à présent de l'évolution de l'agriculture, chers élèves. Les premiers points et les passages du nomadisme à la sédentarisation. Grâce à l'agriculture, les hommes pouvaient rester
habité dans un même endroit. Ils ont construit des maisons, des villages et des greniers pour conserver les récoltes. Cela a donné naissance aux premières civilisations, les deuxièmes points et les techniques agricoles anciennes. L'homme utilisait la houe et la bêche pour travailler la terre. Plus tard, il a inventé la charrue tirée par les bœufs. L'irrigation a été pratiquée par les Égyptiens, les Mésopotamiens et les Chinois.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Parlons maintenant de l'agriculture dans l'Antiquité. En Égypte ancienne, le Nil fertilisait les terres grâce à ses crues. Les Égyptiens cultivaient les blés, l'orge, les légumes et j'en passe. Ils élevaient aussi des bœufs, des moutons et des chèvres. En Mésopotamie, les habitants ont construit des canaux pour irriguer les champs. Ils cultivaient du blé, de l'orge et autres. Ils inventèrent l'écriture pour compter leurs récoltes. L'écriture égyptienne s'appelle les hiéroglyphes. En Chine ancienne, les riz étaient la base de l'alimentation. La soie provenait de l'élevage des vers à soie. À cette époque, chers amis, les Chinois maîtrisaient déjà l'irrigation. Les Grecs cultivaient l'olivier, la vigne et les blés. Poursuivons notre leçon, chers élèves. Parlons à présent de l'agriculture à la préhistoire et à la naissance de l'agriculture. Au cours du paléolithique ou de l'âge de la pierre taillée les humains étaient principalement chasseurs, cueilleurs. Ils se déplaçaient beaucoup, suivaient les troupeaux d'animaux, ramassaient des fruits, des racines et des baies. Ils ne savaient pas encore cultiver la terre. Puis vint le néolithique ou l'âge de la pierre polie. À cette époque, chers écoliers, les humains ont commencé à s'installer définitivement. Ils ont domestiqué des plantes, par exemple les blés, l'orge, les riz, les maïs dans certaines régions, plus tard, et des animaux comme les moutons, les chèvres, les vaches, les porcs et j'en passe. Ce processus s'appelle la révolution néolithique. Domestiquer, chers élèves, signifie rendre dépendants des humains, les plantes ou les animaux, de manière à pouvoir les cultiver ou les élever. Par exemple, le blé sauvage a été sélectionné pour produire des épis plus gros et plus nourrissants. Les moutons autrefois sauvages ont été choisis pour être plus docile et donner plus d'haleine. Cette transition, chers amis, a changé la vie des humains. Ils ont créé des villages, inventé des poteries, tissé des vêtements. Les sociétés se sont complexifiées. L'agriculture a permis la croissance de la population humaine. Les surplus agricoles ont permis d'échanger, de stocker, de construire des sociétés plus complexes. On observe ces évolutions dans différentes régions du monde. Au Proche-Orient, les premières civilisations apparaissent grâce à l'irrigation et à l'organisation agricole. En Égypte antique, le Nil était la base, ses crues apportaient de l'eau et du limon fertile. En Chine, la culture du riz dans les plaines inondables développe les premières sociétés. Également en Amérique centrale. Toutes ces régions montrent que l'agriculture est un moteur puissant de l'histoire de peuples. Les techniques étaient rudimentaires, outils en pierre, semi-manuels et irrigation simple. Mais ces techniques suffisaient pour nourrir des sociétés en croissance. Au fil du temps, ils ont amélioré progressivement les outils. Par exemple, la charrue en bois légère a remplacé la houe.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Chers écoliers, passons à l'Antiquité, c'est-à-dire environ 2000 ans avant Jésus-Christ, à 500 ans après Jésus-Christ. En Égypte antique, les paysans suivaient les crues du Nil pour semer leurs céréales. Ils construisaient des canaux pour répartir l'eau. Ils utilisaient des outils en cuivre ou en bronze. Plusieurs pratiques continuent au Moyen Âge avec des adaptations. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe entre dans ce qu'on appelle parfois les âges sombres. Pourtant, l'agriculture perdure dans les campagnes. Les paysans payaient des impôts ou des redevances au seigneur. L'usage de la charrue lourde se répand, adapté aux terres plus lourdes d'Europe du Nord. Les progrès agricoles au Moyen Âge incluent la diffusion de l'utilisation des harpes et des charrues à soc. Les techniques d'engrais ou fumier, composts, se comprennent mieux. Les légumineuses sont cultivées. Elles enrichissent les sols en azote. L'agriculture produit davantage, c'est qui favorise la population. Les villes médiévales commencent à se développer. Par exemple, commerce, artisans et foires agricoles. La fin du Moyen-Âge voit un renouveau agricole, chers amis. Au XIIIe et XIVe siècle, l'agriculture se diversifie. Les climats étaient plus favorables. On cultive des fruits, légumes, vignes, plantes médicinales et ainsi de suite. Cependant, la peste noire au XIVe siècle fait chuter la population, entraînant la désertification de certaines terres. Mais l'agriculture se réorganise par la suite. Poursuivons notre leçon, chers amis, sur l'agriculture et l'élevage. À partir du XVIe siècle, les échanges mondiaux se développent. Les Européens découvrent les plantes venues du monde nouveau. Les maïs, par exemple, les pommes de terre, les cacao, la tomate, les piments, la vanille arrivent en Europe. Les maïs et la pomme de terre deviennent essentiels pour nourrir la population. Ils sont faciles à cultiver et très nourrissants. Les pratiques culturales évoluent. L'agriculture devient plus productive. Au XVIIIe siècle, on parle des premières révolutions agricoles en Angleterre. Les clôtures privatisent les terres communes. Cela permet des exploitations plus organisées, mais chasse certains petits paysans. Les innovations techniques se diffusent. Les rendements augmentent. Dans les colonies, on développe des monocultures, par exemple, du café, sucre et coton. Ces cultures répondent à la demande européenne. Les esclaves ou travailleurs forcés y travaillaient souvent. Dans l'ensemble, cette période voit l'agriculture devenir plus technique et plus organisée. L'agriculture profite des progrès technologiques de l'industrie. La machine à vapeur permet aussi de développer des machines agricoles. Des moissonneuses mécaniques apparaissent. Des batteuses ou les battages des céréales remplacent les fléaux. Les machines permettent de travailler plus vite et avec moins d'efforts manuels. Les chemins de fer permettent de transporter la production agricole loin et vite. On voit apparaître des grandes fermes commerciales. L'agriculture devient une entreprise à grande échelle. Voilà, chers apprenants, nous voici arrivés à la fin de la première partie de notre leçon. On se retrouve juste après cette séquence musicale pour la suite.
Autrement dit, différent de vous. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Courons dans les forêts d'or et de lumière. Partageons-nous les fruits mûrs de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Je suis fille des torrents sur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours, dans un cercle, une ronde à l'infini. L'amour, le sycamore dort comme l'aigle royal, il trône impérial. Chantons tous en chœur les chansons de la montagne, en rêvant de pouvoir peindre l'air du vent. Mais la terre n'est que poussière, tant que l'âme n'y a que main, il peut peindre en mille couleurs l'air du vent.
J'aimais ça comme à l'école quand j'apprends avec Radio Okapi.
Poursuivons notre leçon, chers amis. Parlons à présent de l'agriculture au XXe siècle. Au début du XXe siècle, l'intensification agricole permet de nourrir plus de personnes. Mais cette intensification entraîne aussi une exploitation plus grande des terres. L'utilisation excessive d'engrais chimiques peut polluer les sols ou l'eau. Les monocultures sont plus vulnérables aux maladies ou aux parasites. Cela nécessite alors des pesticides. Ainsi, l'agriculture moderne apporte beaucoup, mais pose aussi des défis. Au XXe siècle, on assiste une révolution verte, surtout dans les années 1940 et 1960. Surtout dans les années 1940 à 1960. La révolution verte introduit des semences améliorées, des engrais, de l'irrigation et des techniques modernes. Parlons à présent de l'élevage. L'élevage est une activité humaine très ancienne et essentielle. Il consiste à élever des animaux pour leur viande, lait, laine, force ou compagnie. Comme l'agriculture, l'élevage a été crucial pour la sédentarisation des sociétés. Cette leçon retrace l'évolution de l'élevage à travers les grandes périodes historiques. Elle explique pourquoi nos sociétés ont commencé à élever des animaux, comment cela s'est organisé et les conséquences sur les humains et la nature. Chers amis, il est important de savoir qu'à la fin de la préhistoire, les humains étaient chasseurs-cueilleurs sans élevage. Vers les néolithiques, ils s'installent et commencent à domestiquer les animaux. La domestication est le processus par lequel l'homme sélectionne des animaux sauvages pour les élever. Elle repose sur la capture, la modification de l'alimentation et le contrôle des naissances. Ces changements permettent aux animaux d'acquérir des caractéristiques nouvelles. L'élevage répond à des besoins alimentaires, mais aussi des vêtements et des transports ou travail. Il a permis aux humains de se sédentariser, de créer des villages puis des cités. Économie, échange et spécialisation sont nés de cette sédentarisation. La sélection des animaux permet de choisir les individus les plus dociles ou productifs. Par exemple, les chiens ont évolué pour être sociables, utiles à l'homme. L'élevage a déclenché des innovations, outils, structures, techniques de transformation du lait, équipements comme harnais et j'en passe. Les sociétés anciennes élevaient divers animaux pour la nourriture, les transports et la force. En Mésopotamie et en Égypte, on élevait les bovins pour le lait, la viande et pour tirer des instruments agricoles. Le fromage est inventé pour conserver le lait. L'élevage nomade ou le pastoralisme naît lorsque les bergers se déplacent avec leurs troupeaux. Le cheval permet les transports rapides, la guerre, la traction et devient un symbole de puissance. Les oiseaux comme les poules sont appréciés pour les œufs, la viande, mais aussi la fierté et les rituels. L'élevage reste domestique et local. L'élevage en basse cour, très présent, par exemple, poules, porcs, lapins, pigeons, canards et j'en passe. Parlons maintenant de l'élevage en temps moderne. À la naissance, l'élevage s'enrichit des techniques et d'échanges mondiaux. Les nouvelles races animales circulent entre les pays. Les rationalismes scientifiques influencent la sélection et les écoles vétérinaires apparaissent. L'amélioration des techniques vétérinaires contribue à la santé et à la reproduction des animaux. L'élevage des chevaux de guerre ou des traits reste stratégique pour l'armement et les voyages. En parallèle, l'élevage des volailles devient plus courant dans les campagnes. L'élevage industriel soulève des questions éthiques, sanitaires et environnementales. Le développement de l'apiculture est crucial pour les récoltes, la biodiversité et l'écologie. Des races anciennes sont préservées par des fermes éducatives et des coopératives locales. Les écoles vétérinaires contribuent à former des professionnels pour gérer la santé animale et la reproduction durable. Chers apprenants, retenez que l'élevage est un pilier de l'histoire humaine autant que l'agriculture. Il débute dès la préhistoire par la domestication d'animaux pour des besoins alimentaires et des travaux. Chaque période a apporté ses innovations, ses nouveaux usages et ses contraintes. Aujourd'hui, l'élevage reste essentiel, mais doit s'adapter aux enjeux éthiques, écologiques et sociaux. Bien, chers amis, à présent, parlons de l'agriculture au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on cherche des alternatives plus durables. L'agriculture biologique se développe sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse. On favorise les pratiques comme la rotation, les composts et les cultures associées. L'agriculture urbaine permet aux citadins de produire eux-mêmes des légumes. Les coopératives agricoles mettent en lien entre les producteurs locaux et les consommateurs. Les coopératives agricoles valorisent des produits frais, des saisons cultivées de façon durable. L'agriculture reste au cœur des préoccupations. Elle nourrit toujours plus de monde. Elle doit s'adapter au changement climatique. Les agriculteurs cherchent des variétés résistantes à la sécheresse, aux inondations et aux nouvelles maladies. On observe aussi une politique mondiale autour de la souveraineté alimentaire. Cela signifie que chaque pays doit pouvoir produire assez pour nourrir sa population. Les organisations comme la FAO, qui signifie l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, travaillent là-dessus. L'agriculture est aussi liée au commerce mondial. Les importations et les exportations aux prix alimentaires et à la sécurité alimentaire. L'agriculture nourrit les populations et fournit les matériaux de base à l'homme. Elle permet aux humains de se sédentariser, de créer des villages, des villes et des états. Elle développe l'économie et influence la culture. Elle façonne les paysages. Elle est souvent au cœur des conflits. Elle est aussi capitale pour l'identité des nombreuses populations rurales. Elle joue un rôle dans l'écologie, la biodiversité et la régulation du climat grâce aux forêts fruitières, arbres, prairies et éléments naturels favorisent la faune.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Voilà, c'est la fin de notre leçon de séjour. Prenez vos cahiers d'exercice et écrivez. Numéro 1. Que signifie domestiquer un animal? Que signifie domestiquer un animal? A. Les chasser dans la forêt. B. Les dresser pour attaquer. C. L'apprivoiser et les garder près de soi. D. Les laisser vivre librement. Et les tuer. Que signifie domestiquer un animal? A. Les chasser dans la forêt. B. Les dresser pour attaquer. C. L'apprivoiser et les garder près de soi. D. Les laisser vivre librement. Et les tuer. Choisis la bonne réponse. Numéro 2. Quel animal est souvent élevé pour produire du lait? Quel animal est souvent élevé pour produire du lait? A. Les chiens. B. Les chats. C. La poule. D. La vache. E. Les canards. Quel animal est souvent élevé pour produire du lait? A. Les chiens. B. Les chats. C. La poule. D. La vache. Et les canards. Choisis l'assertion correcte. Numéro 3. Parmi ces animaux, lesquels a été domestiqué en premier par l'homme? Parmi ces animaux, lesquels a été domestiqué les premiers par l'homme? A. Les moutons. B. Les chiens. C. La vache. D. Les chevals. Et les pigeons. Parmi ces animaux, lesquels a été domestiqué en premier par l'homme? A. Les moutons. B. Les chiens. C. La vache. D. Les chevals. Et les pigeons. Choisis la bonne réponse. Numéro 4. Quel outil traditionnel sert à labourer les sols? Quel outil traditionnel sert à labourer les sols? A. Les couteaux. B. Les râteaux. C. La houe. D. La machette. Et la brouette. Quel outil traditionnel sert à labourer les sols? A. Les couteaux. B. Les râteaux. C. La houe. D. La machette. Et la brouette. Choisis l'assertion correcte. Numéro 5 et enfin, quelle invention a beaucoup aidé les agriculteurs dans l'Antiquité? Quelle invention a beaucoup aidé les agriculteurs dans l'Antiquité? A. Les vélos. B. L'ordinateur. C. La charrue. D. L'ampoule. E. La torche. Voilà tout pour aujourd'hui, chers amis. Bonne chance à tous.